La guerre, troisième légende. Cette troisième légende fait ordinairement suite aux deux autres quand les Kanaks, assis le soir sous les cocotiers, près des cases, écoutent avidement les conteurs. Là, comme aux veillées des villages européens, le récit suspendu éveille une ardente curiosité et ses péripéties font courir des frissons dans l'auditoire. On dirait qu'on assiste dans quelque chaumière française à une lecture du Messager boiteux ou du Bon Liégeois. Alors que la neige fouette les vitres, que les vieilles femmes filent leurs quenouilles et que les enfants et les jeunes filles écoutent dans un silence charmé. Les récits kanaks font mieux que de durer tout un hiver. Ils peuvent être redits à l'infini sans jamais lasser les auditeurs. Presque toujours, à part les ornements qui ajoutent l'imagination du conteur, tout le monde sait l'histoire, mais la sensibilité ne s'émousse pas sensiblement par suite du peu d'usage. Elle reste donc vive comme chez les enfants, qui pleurent ou rient facilement. Tant que la peur avait été inconnue, le mensonge n'exista pas. S'il fut plus tard en honneur, c'est que le mensonge devint un moyen de défense et parfois d'attaque. Et puis il est avec les consciences kanaks des accommodements, comme avec le ciel. Les méchants commencèrent à s'organiser après la mort de Téchéa. Ils s'arrangèrent entre eux pour se rendre maîtres de tout ce qui leur plaisait. Il ne restait presque rien de la chasse ou de la pêche, aux femmes et aux enfants, et les vieillards étaient impuissants à les protéger. Les tribus s'amoindrissaient. Il ne restait pour veiller sur elles que des vieux qui avaient la tête toute blanche et dont on ne pouvait plus nombrer les ignames. Ces vieux se disaient entre eux « Veillons !» Mais que pouvaient-ils ? Pour veiller, il faut la rouge lueur des branches de kaori chargées de résine, et les dernières qu'ils avaient abattues étaient sèches comme le bois qu'on frotte pour faire le feu. Ils ne montaient plus aux arbres, le pouce de leurs pieds ne pouvait plus les aider et les muscles de leurs bras s'étaient détendus. Le grand chef qu'on appelait autrefois X.I., le soleil, n'était plus connu que sous le nom de Momma, vieux. On laissait l'oiseau sur ses cases parce que les bons n'avaient eu rien à lui reprocher quand il était fort et que les méchants n'avaient pas peur de lui. Mais il n'y avait pas de fils qui pût lui succéder, et les jeunes gens osaient se faire chef et mener leurs compagnons au combat contre les méchants, car on avait tant frayeur d'eux qu'on ne l'eût pas suivi ou qu'on ne leur eût livré lâchement. Cependant, des enfants grandissaient, ayant à cœur ce que souffraient leur mère et leur grand-père, quoique ceux-ci ne fussent plus bons à rien. Ces enfants-là se disaient « Oh, quand nous serons forts, il y aura aussi dans nos cases des tarots, des ignames et du poisson séché, quand nous saurons défendre nos champs et notre pêche. » De leur côté, les méchants se concertaient, ayant choisi pour chef les plus mauvais d'entre eux et promis de leur obéir. Ils se nommaient Dja, le casse-tête, et Païmé, la mort. Païmé choisit pour y demeurer la plus grande case de la tribu. Cette case appartenait à deux sœurs, Mika et Kuira, les belles filles noires. Mais peu lui importait. Il leur proposa de devenir ses femmes, mais elles ne répondirent rien. Et pendant les colliers de leur mère, la hache et la sagaie de leur père, elles s'en allèrent dans la forêt. Païmé aurait bien voulu prendre la hache et la sagaie. Mais, curieux de voir comment les jeunes filles s'en serviraient, il les suivit des yeux jusqu'à la forêt. Mika et Kuira étaient orphelines et toutes petites, elles avaient vu se mettre à l'abri des grandes pluies et trouver leur nourriture. Elles se bâtirent donc dans la forêt une cabane avec des branches, y suspendirent les colliers, la hache et la sagaie. Et une compagne à laquelle ne songeaient pas les belles filles noires, vint les trouver. La vieille Caïna avait perdu ses trois filles. Son mari avait été tué par Djah. Elle vivait seule dans un creux de rocher. Elle était plus âgée encore que le grand chef, l'ayant vu tout petit. Caïna aurait pu trouver asile auprès de lui, s'il eût encore protégé quelqu'un. Mais à peine s'il pouvait s'occuper de porter à sa bouche quelques bananes bien mûres. C'était comme s'il n'eût plus vécu. « Il faut t'envoyer à manger au Momna, » disait chaque matin Jai Paimé. « Car s'il mourait avant que nous le voulions, il y en a parmi nous qui se disent ses proches parents, et il faut nous défaire d'eux. » Donc le Momna vivait des restes de viande ou de poisson de Jai et de Paimé. Il s'éveillait pour manger, se rendormait aussitôt. Et tout en s'accordant entre eux, Paimé et Dja agissaient dans la nuit, l'un contre l'autre. Un soir, au bord de la mer, une pierre tomba du haut d'un rocher et manqua Dja. Le lendemain, Paimé était étendu sur sa natte, le crâne brisé. Dja était venu pendant la nuit. Pendant ce temps, Mika et Kuira, les belles filles noires, avaient adopté pour leur mère la vieille Caïna. Elle lui avait mis sa natte au soleil levant et la servait chaque jour. Et Caïna appelait vers les jeunes filles les esprits des pères des tribus afin qu'ils les aidassent dans la pêche ou qu'ils leur fissent trouver des fruits et des racines. Les vieillards, voyant que Paimé était mort, se disaient entre eux « Bon, celui-ci sera encore plus méchant que l'autre, car le voilà seul maître, mais il ne pouvait toujours rien. » Dja s'établit dans la grande case à la place de Paimé. Il mit sur sa porte la main et sur le sommeil l'oiseau. Personne ne disait rien, mais les enfants des tribus grandissaient. Dja se faisait apporter la moitié de la chasse, de la pêche et des récoltes. Et comme il ne pouvait pas tout manger seul, il nourrissait les compagnons pour le défendre. Et tout le monde gardait le silence. Mais les enfants grandissaient. Ce que voyant, les vieillards commencèrent à ne plus chasser, afin de ne rien tuer pour Dja. Ils se contentaient de racines pour leur nourriture. Mais lui mettait en avant ses compagnons avides. Ils firent sortir les vieillards. Dja en choisit 10 qu'il fit tuer, et pour la seconde fois on mangea de la chair humaine. Les vieillards résolurent la guerre. Ils emmenèrent dans la forêt tous les garçons qui étaient déjà grands et se mirent avec eux à fabriquer des armes, car Dja avait fait prendre les sagaies et les casse-têtes. Ils coupèrent donc des branches d'acacia qui se font en long, de bois rouge dont chaque branche ne fournit qu'une seule arme, et de ces arbres fragiles qui croissent au bord des cours d'eau et dont la pointe reste dans la blessure, et de tout cela ils firent des sagaies. Ils coupèrent du houp et du bois de pneumaou, bois de rose, et y taillant des étoiles au gros bout, ils en firent des casse-têtes. Ils allèrent ramasser dans les lits des cascades les pierres lourdes, pareilles à des œufs qu'on lance avec des frondes, et en remplirent des filets qu'ils placèrent derrière leur dos. Les vieillards, les enfants, se trouvèrent donc armés pour combattre de près ou de loin. Les femmes, les tout-petits et les tout-vieux, emportant les richesses des tribus, les colliers de jade et les coquillages qui servent d'or, s'en allèrent dans les brousses. Dja, voyant le village désert, commença à s'inquiéter. Il réunit ses compagnons, les méchants, sentant qu'on allait venir les attaquer. Pendant la nuit, les vieillards et les enfants se formèrent en longue file, et au jour naissant, jetant des grands cris, ils enveloppèrent le village. Sanglante et longue fut la mêlée. Les vieux, tous les charnés, étaient redevenus forts, car les esprits de leurs pères marchaient avec eux. Leurs os craquaient en se brisant comme des branches mortes. Mais avant de mourir, chacun avait étendu des ennemis. Les enfants se tordaient en tombant comme des lianes vertes. Leur sagaie avait longtemps frappé juste et bien des forts étaient à terre comme ces gros arbres des forêts qu'on abat pour creuser des pirogues. Mika et Kuira, les belles filles noires, combattaient avec leurs frères et la vieille Kaina, debout, chantait la première chanson de guerre. Autour d'elle pleuvaient les sagaies et tombaient les pierres. Des frondes s'abattaient, les lourds casse-têtes, mais rien ne la frappait. La vieille, debout, semblait grandir, grandir toujours, et sa voix s'entendait au loin comme une trombe d'appel. « Avez-vous embrassé vos fils ce matin, ô mère? Vous ne les verrez plus. La hache taille dans le vif, et ce n'est que la sève pâle des arbres qui coule. C'est leur rouge sève humaine. » C'est du sang. La hache, la sagaie, la fronde font de larges plaies vives. C'est la guerre. La guerre est plus terrible que le cyclone. Elle couche comme l'herbe les jeunes et les forts. Mais le brave y est à l'aise. Les haches menacent sa tête. Les sagaies menacent son cœur. Il reste droit comme le palmier. Le brave est fier, il est beau. Chantez, fils des tribus, c'est la guerre. Longue et terrible fut la lutte. Les méchants furent vaincus, mais longtemps les tiges des ignames furent plus hautes et plus touffues, car la terre avait été engraissée de sang. Et jamais plus les tribus ne se déshabituèrent de la guerre.